Bonjour, bienvenue et merci de nous avoir rejoints à cette conférence de presse. Je m'appelle Jane Strance et je suis la personne qui s'occupe du fil Twitter du groupe des Dambes. Je suis membre du groupe depuis 2015. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Avec Catherine Tchirk-Lucas, nous essayons de gérer au mieux cette conférence de presse qui va se dérouler de la façon suivante. En quelques instants, je vais donner la parole à Joseph Pamré et à Elisabeth Parmentier, qui vont faire une présentation du nouveau livre qui vient de sortir, De toutes les nations pour la catholicité des églises. Vous pouvez procurer un exemplaire aux éditions du CERF. Et ensuite, nous avons un temps prévu pour que des journalistes qui sont avec nous puissent poser des questions et ils auront la priorité. Si vous êtes journaliste, à ce moment-là, je vous demanderai de poser une question, de dire pour qui vous travaillez et on vous donnera vraiment la priorité dans cette conférence de presse. Mais c'est ma grande joie de pouvoir vous présenter nos deux nouveaux coprésidents, Joseph Famré et Elisabeth Parmentier, qui vont eux-mêmes maintenant vous présenter à deux voix le livre. Nous avons fait un petit test tout à l'heure avec le son et la lumière, si j'ose le dire comme ça, et nous avons constaté que la caméra de Joseph Famré, sa bande passante, ne fonctionne pas très bien. Du coup, il va arrêter sa vidéo maintenant, mais vous voyez qu'il est bien là et il remettra sa vidéo à différents moments. Mais Elisabeth et Joseph, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous donnons la parole pour pouvoir nous présenter ce livre passionnant. Merci à vous et gardez vos micros éteints, les autres, s'il vous plaît. Et Joseph, si tu peux enlever ta vidéo, je pense que ce serait bien pour la qualité du son.
Merci beaucoup, Jane. Et il me revient donc la joie de commencer ce dialogue avec tout le monde. Et à vrai dire, Joseph Famré et moi, nous sommes très émus de nous retrouver au fond comme porte-parole de la cohorte des 40 témoins de ce livre, puisque nous ne sommes que porte-parole de 40 personnes qui ont travaillé pendant un grand nombre d'années pour arriver à cet ouvrage et à cette réflexion. Et je remercie beaucoup notre groupe communication, Jane Strance, Catherine Lucas, Schirk et également Michel Kubler, tout comme Anne-Noëlle Clément, notre secrétaire, pour toute cette aide pour préparer cela. Et je voudrais, avec Joseph, d'abord honorer nos présidents prédécesseurs, puisque c'est en fait eux qui devraient prendre la parole, Jean-François Chiron et Jacques-Noël Pérès. D'ailleurs, Jacques-Noël est présent. La mosaïque est grande, donc je ne l'ai pas directement sous les yeux, mais il est présent. Et en fait, c'est eux qui ont dirigé ce travail pendant toutes ces années. Donc, il nous revient de leur adresser d'abord un très grand merci de nous avoir accompagnés, nous, les 38 autres, pendant toutes ces années. Voilà. Donc, je crois que c'est avant que nous ne
Je peux
commencions,
m'associer.
Joseph, c'est à toi, Joseph.
Donc, simplement pour m'associer, évidemment, à ces remerciements adressés à nos deux prédécesseurs. Et je voudrais simplement souligner, pour suivre l'ensemble de la relecture de cet ouvrage, composer les index et avoir toutes les relations nécessaires avec l'éditeur du CERF. Ce sont des tâches qui prennent énormément de temps et nous leur en sommes vraiment très reconnaissants. Je te repasse la parole pour la suite.
Merci. Alors, avec Joseph, nous avons préparé des toutes petites interventions en nous relayant pour que vous ne vous ennuyiez pas toujours avec la même voix. Et donc, ça ne devrait pas être très long puisque ce sont vos questions qui vont nous intéresser. Tout d'abord, le titre. Au fond, pourquoi est-ce que nous avons valorisé ce titre pour la catholicité des églises? Vous connaissiez déjà dans la tradition du groupe des Dombes des termes un petit peu qui ont une histoire, la communion des églises, pour la communion des églises, pour la conversion des églises, et dans ce cas la catholicité, précisément parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce terme de catholicité et que vous savez que les protestants sont allergiques et que c'est très difficile pour eux de, au premier degré d'entendre dans la confession l'Église catholique, je crois l'Église une sainte catholique et que nous avons traduit en français par universelle, ce qui n'est pas sans poser problème, mais pas, et c'est pourquoi nous insistons sur cette ligne et je dirais, on pense à la catholicité géographique, c'est-à-dire sur toute la terre, que le christianisme soit sur toute la terre. On pense à la catholicité dans l'histoire, qu'il y ait une empreinte du christianisme à travers toute l'histoire. Nous avons voulu valoriser la profondeur, la qualité des liens qui unissent les églises.
Je partirais de ce que je pense être la perception spontanée de beaucoup de catholiques à propos de catholiques et de catholicité. Il me semble que beaucoup de catholiques pensent sans doute que seule l'Église catholique est catholique et comprennent d'ailleurs catholique au sens d'universel, de géographiquement répandu sur toute la terre, comme Élisabeth vient de le dire. Or, ce n'est qu'une dimension la plus quantitative de la catholicité. Et celle-ci a aussi indissolublement une dimension plus qualitative, l'universalité, l'unité dans la diversité, la totalité de la foi, la plénitude de l'Évangile annoncée à toutes les cultures et toutes les manières d'être humain dans leur diversité. D'où ce début de citation évangélique dans le titre, hein, de toutes les nations faites des disciples, à mon avis, qui est à comprendre dans un sens plus qualitatif que quantitatif. Et cette catholicité au sens où je viens de la définir est déjà et doit être toujours davantage une marque, une qualité de toutes les églises protestantes, anglicanes, orthodoxes, ou catholique, hein, selon ce que nous professons dans le credo, je crois en l'Église catholique. D'où le sous-titre de notre ouvrage. Donc la catholicité est un don à toutes les églises, mais qui doit être approfondie, qui doit être convertie sans cesse. D'où le sous-titre pour la catholicité des églises. Je te repasse la parole.
Le troisième point que nous voulions mentionner, enfin le deuxième, pardon, que nous voulions mentionner après le titre, c'est la pertinence. Est-ce que ce sujet va intéresser quelqu'un avec ce titre cette problématique? Est-ce que ce n'est pas uniquement une question très, très pointue? Au contraire, et c'est aussi pourquoi l'ouvrage est gros et pourquoi nous avons mis beaucoup de temps, parce qu'il touche à toutes les questions qui sont liées à l'œcuménisme. Précisément la question de l'unité. C'est une autre manière de revenir aux enjeux de l'unité, puisque précisément, comment pouvons-nous nous reconnaître une église chrétienne dans notre diversité? Donc, ça a trait aux enjeux d'identité, aux enjeux de diversité, et il ne s'agit pas simplement d'une question, mais au fond de l'enjeu de la qualité des relations. Donc ça touche à la question des ministères, des structures, ça touche à la question des confessions de foi, des contenus de foi, et évidemment à toutes les résistances qui peuvent encore se manifester dans l'œcuménisme aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt, mais qu'il va être dans la traduction. Comment est-ce que nous pouvons traduire ce besoin de qualité de nos relations? C'est un peu comme si vous faisiez la différence entre la mondialisation et la réalité d'une construction commune. La mondialisation, ça se fait comme ça au fil des réalités politiques. Alors que construire vraiment une cohésion entre les peuples, c'est autre chose. Et nous en voyons bien les expressions douloureuses aujourd'hui, même en Europe. Voilà, donc il y a pour nous, en tout cas, membres du groupe des Dombes, une vraie pertinence générale, enfin, sur un certain nombre de sujets précis en rapport avec cela.
Pour souligner la pertinence du sujet qui a été choisi, je partirai de la situation ecclésiale écuménique actuelle. Les nouvelles, nous constatons de nouvelles recompositions internes des églises, l'apparition de nouvelles églises évangéliques, pentecôtistes notamment, la relativisation des frontières confessionnelles entre églises, entre chrétiens. Et donc tout cela interroge de manière nouvelle l'unité interne des églises et entre les églises. Et en vue d'une compréhension riche et renouvelée de l'unité, il nous a semblé au groupe des Dombes qu'il fallait travailler sur une autre note, une autre marque de l'Église, la catholicité, en vue d'une unité inséparable d'une véritable diversité. Si nous regardons la situation humaine, sociale, culturelle, politique de notre monde, eh bien, nous pensons modestement que si les Églises cultivent la catholicité en elles et entre elles, elles peuvent être peut-être un signe, voire même un modèle dans le monde morcelé et conflictuel de notre temps. Ce serait ma manière de souligner la pertinence de notre sujet également pour le monde. À
Alors,
toi.
merci. Quelques éléments de structure de l'ouvrage, mais vous trouverez facilement la table des matières. Je voudrais surtout indiquer la cohérence assez rapidement. Il y a 7 parties, et nous faisons comme dans la méthode avérée du groupe des Dombes jusqu'ici, en particulier les derniers développements. Nous commençons par une représentation actuelle de nos conceptions de nous-mêmes, Église de la Réforme, Église catholique, en essayant de montrer où se situent nos conceptions différentes dans ces représentations. Puis, il y a une sorte de petit entre-texte qui porte sur le canon biblique comme réalité de mise en œuvre de l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, le canon n'est pas simplement une juxtaposition d'ouvrages au hasard, mais il a aussi une cohérence et il représente une unité dans cette diversité. Ensuite, une partie tout à fait typique du groupe des Dombes, qui est un historique sur la manière dont la catholicité a été vécue à travers les siècles et comment elle a été valorisée ou utilisé à d'autres escients, instrumentalisé aussi pour les divisions. Et je pense qu'il y a là une vraie originalité de l'ouvrage. Je ne connais pas personnellement d'ouvrage qui fasse un historique comparable à celui-ci, parce qu'il est à la fois historique et à la fois théologique, et également porte sur des questions de sociales et de compréhension de soi des différentes époques. Donc c'est une grosse partie dans cet ouvrage sur l'historique de la catholicité, également dans le mouvement œcuménique. Et puis il y a une partie biblique, conformément à cette méthode qui a été suivie depuis un certain temps, de mettre l'histoire avant la partie biblique, pour montrer aussi qu'il y a une puissance des réalités historiques qui a joué. La partie biblique qui porte sur précisément des expressions de la catholicité, puisque le terme catholicité n'est pas biblique, donc à travers les textes. Et puis nous avons ensuite 2 parties qui sont prospectives, une partie intitulée Catholicité et réforme, où le groupe des Dombes a essayé de travailler sur des exemples de changement, de volonté, d'approfondissement et de tentative et de lieu de changement à réformer ou ayant déjà été en cours de réforme, des changements de mentalité. Et puis la dernière partie, conformément à la méthode du groupe des Dombes, les conversions possibles, les conversions espérées, qui sont croisées en fait côté catholique et côté protestant. On pourra y revenir peut-être dans la discussion tout à l'heure.
Merci Elisabeth, tu as très bien présenté l'ensemble de la structure de l'ouvrage. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je voudrais simplement insister sur la place faite à l'histoire. Hein, donc on donne la priorité aujourd'hui au groupe des dons, on donne la priorité à l'histoire, même par rapport au témoignage biblique, dans la structuration de l'ouvrage, du moins, du document. Oui, donc la part belle est faite à l'histoire, car c'est dans ce concret de l'histoire que se sont nouées les séparations et qu'elles ont commencé aussi à se dénouer. Et c'est là que le venin séparateur, comme aimait dire Gottfried Hamann, un ancien de notre groupe, c'est là que le venin séparateur peut être, espérons-le, neutralisé, désamorcé au concret de l'histoire et des réalités historiques. Et d'où la place première donnée à l'histoire, avant même le témoignage biblique, dans la méthodologie du groupe des dons. Et puis, comme Elisabeth l'a bien rappelé, la toute dernière partie, le tout dernier chapitre de l'ouvrage est vraiment typique également de cette méthodologie du groupe des dons depuis une bonne vingtaine d'années, depuis 30 ans. C'est cette audace, en quelque sorte, modeste en même temps, d'oser proposer des points de conversion, non seulement aux chrétiens individuels, mais aux églises en tant que telles. Voilà.
Alors, je tirerai des conclusions, disons des conclusions des lieux les plus évidents de difficulté de catholicité. Je laisserai Joseph présenter une thèse qui est issue de ces conclusions. Comme ça, je ne mobilise pas trop la parole, moi. Je voulais simplement introduire cette thèse par le fait que, évidemment, comme vous le devinez, nous aboutissons à des conclusions croisées, c'est-à-dire que la nécessité de conversion catholique sera plutôt la place de l'altérité, la place de la diversité et la reconnaissance de cette diversité dans les différents lieux et les différentes relations internes à l'Église catholique et avec les autres Églises. L'exigence protestante de conversion va dans l'autre sens, c'est que nous ne soyons pas seulement ceux qui promeuvent la diversité et la riche pluralité, mais également les ferments d'une communion vécue de manière plus forte, plus liée à des réalités visibles, des instances de communion, des lieux de communion visibles où nous nous engageons vraiment les uns avec les autres. Voilà. Et à ce moment-là, arrive donc aussi une thèse qui nous est commune et que je laisse à Joseph la joie de transmettre.
Donc, la thèse qui est énoncée, donc à la suite de tout ce cheminement, de tout cet itinéraire à propos de la catholicité, et celle-ci, je la reprends textuellement, l'Église catholique et les Églises de la Réforme forment une seule Église, bien qu'en communion imparfaite. Alors, ça peut avoir l'air de ne pas être si neuf que ça, mais si, d'un point de vue catholique, en tout cas, c'est neuf d'oser dire donc que nous formons, Église catholique et Église de la Réforme, nous formons déjà une seule Église. On parlait bien de communion imparfaite, mais on n'est jamais allé, du côté catholique, en tout cas, jusqu'à dire explicitement cela. Et pourtant, cela est possible. En effet, une seule Église, si l'on tient compte de tout ce qui nous unit désormais, catholiques et protestants, dans notre compréhension même de l'Église, dans notre être ecclésial, dans notre réalité ecclésiale, je pense que sur la base de tout le travail œcuménique qui est accompli depuis des dizaines d'années, je pense qu'on peut vraiment affirmer que l'Église catholique et les Églises de la Réforme forment une seule Église, bien qu'en communion imparfaite, car il reste certaines divergences qui ne sont pas encore complètement surmontées. Et donc, le travail œcuménique doit continuer vers la pleine communion. Mais je crois que c'est déjà une avancée d'oser tenir que l'Église catholique et les Églises de la Réforme forment une seule Église. C'est, pensons-nous du côté catholique, c'est justifié, légitime, en tenant compte, en explicitant, disons, des enseignements de l'Église catholique depuis le Concile Vatican II. En effet, au Concile Vatican II, il est affirmé tout à fait clairement que l'ensemble des baptisés, de toutes les églises chrétiennes, l'ensemble des baptisés appartiennent à l'unique peuple de Dieu. Ils sont membres du même corps du Christ. Et donc, sur cette base déjà, il est possible d'annoncer, d'affirmer cette unité fondamentale, quoique incomplète. Et l'enseignement de l'encyclique Utunum Sint de Jean-Paul II en 1995 est allé plus loin en affirmant que les éléments de sainteté et de vérité qui sont reconnus par l'Église catholique aux autres églises chrétiennes, l'encyclique affirme que ces éléments de sainteté et de vérité sont la base objective de la communion qui existe, même imparfaitement, mais de la communion qui existe non seulement entre chrétiens individuels, mais entre les églises de la Réforme, en l'occurrence, et l'Église catholique. Et donc, nous avons pensé au groupe des dons que cette affirmation pouvait être vraiment légitimée du côté catholique et qu'elle était l'explicitation, ce qui est le rôle du théologien aussi, d'aller plus loin que certaines affirmations, que certains enseignements des Églises. Et donc, cette affirmation peut être vraiment légitimée sur la base de pierres d'attente qui existent dans, je dirais, la tradition catholique.
Oui, merci Joseph d'avoir si bien précisé tous ces enjeux. C'est au paragraphe 533 de l'ouvrage, et ensuite les autres paragraphes de la fin vont suivre et expliciter cela. Et je voudrais souligner en particulier ce qui est dit au paragraphe 545, que cette affirmation ne relativise pas comment dire, la manière dont l'Église catholique romaine, cette fois-ci, comprend sa plénitude. Ça ne le relativise pas, ça n'est pas non plus simplement une conception d'une somme d'églises qui seraient toutes ensemble et qui forment l'Église catholique de manière à former simplement un ensemble d'églises. C'est vraiment dans la qualité de leur communion, bien que encore imparfaite, terme que les protestants n'aiment pas trop. Mais néanmoins, ça n'est pas facile non plus. On pense qu'il y a là une thèse qui est courageuse côté catholique, mais ce n'est pas évident non plus côté protestant, puisque pour mémoire, les églises de la Concorde de Leuenberg, donc la communion d'églises protestantes en Europe, lors de son assemblée à Bâle en 2018, a eu aussi des discussions sur la catholicité de ces églises-là, uniquement luthéro-réformées, méthodistes, et elles ont fini par aboutir à l'affirmation à Bâle en 2018 qu'elles forment ensemble une église catholique. Donc ça n'est pas non plus une évidence du côté protestant. Et ça, c'est important de le souligner. Je ne dirai pas davantage par rapport aux conclusions, parce qu'il faut laisser un peu de suspense à la lecture. Et donc, je repasse la parole à Joseph et nous pourrons entrer dans les questions.
Donc l'ouvrage se termine par un appel à des conversions des églises, de chacune des églises. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, à souligner, c'est que les conversions sont appelés à l'endroit même des convictions les plus ancrées de chacune des églises. C'est là, donc, au cœur même des convictions les plus profondes, les plus enracinées, c'est là que il y a certainement un appel à se convertir, à se réformer, en s'ouvrant davantage à la vérité des autres églises. Et les conversions, vous le verrez en lisant l'ouvrage, les conversions portent sur différentes thématiques liées évidemment à la catholicité. Par exemple, la catholicité est évidemment un don de Dieu, un don premier de Dieu fait à toutes les églises, mais en même temps, toutes les églises sont appelées à vivre ensemble ce don de Dieu, et non séparément, bien sûr, à vivre ensemble ce don de Dieu, tout en reconnaissant leur manque et les appels de Dieu à la conversion. Et donc, elles sont appelées à poursuivre le cheminement œcuménique. Une autre thématique, c'est le lien entre catholicité et réforme. Et là, toutes les églises sont appelées à s'accueillir mutuellement, à accueillir l'autre comme partie prenante de la catholicité à part entière. Voilà, une demande de conversion assez radicale. Autre thématique, catholicité et unité. Et là, c'est une invitation à ne pas se contenter d'un statu quo en matière œcuménique, mais au contraire de poursuivre sur le chemin des dialogues œcuméniques et puis concrètement de promouvoir la réception des résultats de ces dialogues œcuméniques, ce qui est souvent un point faible du dialogue œcuménique. Ces dialogues, leurs résultats ne pénètrent pas profondément dans la chair, dirais-je, du peuple de Dieu, des églises. Autre thématique, le lien entre synodalité et catholicité. Et là, c'est le rapport plutôt entre primauté et synodalité qui est mis en valeur, avec une invitation pour l'Église catholique. Ce n'est pas tout à fait neuf, cela, mais une invitation à vivre la primauté, notamment universelle, dans la synodalité, et pour les Églises protestantes, une invitation à s'ouvrir à une primauté dans l'Église, mais qui soit vécue vraiment sous forme synodale. Et les deux thématiques suivantes, c'est le rapport entre catholicité et sacrement, catholicité et liturgie. En ce qui concerne le rapport entre catholicité et sacrement, c'est une invitation à l'élargissement de l'hospitalité eucharistique entre les églises qui est proposée. En ce qui concerne le lien entre catholicité et liturgie, c'est une invitation à s'ouvrir à la liturgie, à la ritualité de l'autre église, de ne pas rester dans une espèce de monolinguisme ecclésial ou liturgique. Donc une ouverture aux autres manières de célébrer. Et enfin, la dernière thématique, c'est le rapport de la catholicité au monde. Donc, comment les églises peuvent-elles témoigner par leur catholicité vivante, vécue, comment peuvent-elles témoigner déjà par avance d'une certaine unité de l'humanité? Voilà un petit peu une présentation rapide des différentes conversions qui sont développées au long de plusieurs pages dans l'ouvrage. Terminé.
Merci beaucoup, Elisabeth et Joseph, pour cette introduction. La parole est maintenant tout d'abord aux journalistes. Vous savez comment j'espère lever la main sur vos écrans. Je vais juste essayer de pouvoir voir S'il y a des demandes de parole, nous avons déjà répondu à une question dans le chat concernant s'il y a des membres évangéliques dans le groupe des Dombes. Et nous avons répondu qu'il y a un membre évangélique, Anne-Cathy Graber, et il y a aussi une partie dans ce livre en question concernant la catholicité selon l'exemple de certaines églises dites congrégationalistes. Vous pouvez suivre ça dans le chat. Mais d'abord, messieurs, mesdames, journalistes qui sont avec nous, la parole est à vous. Vous pouvez la demander. Et ce que je vous suggère, s'il vous plaît, c'est de dire qui vous êtes, pour quel journal vous travaillez ou pour quelle œuvre vous travaillez, et puis ensuite de poser votre question. Et je prendrai dans un premier temps trois questions avant de redonner la parole au coprésident. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Ou est-ce qu'on n'en a pas? Vous pouvez aussi faire signe sur vos écrans si jamais. Alors, je vois, il y a une demande de parole de la part de Stephen Brown. Il y a d'autres demandes? Il y a une autre demande? Pour l'instant, je donne à Stephen Brown la possibilité de poser une question. Alors, et j'espère que ça vous donnera envie de poser vous-même aussi vos questions.
Merci beaucoup. Je m'appelle Stephen Brown. Je suis rédacteur en chef de Ecumenical Review, la revue du Conseil œcuménique des Églises. Et j'ai une question pour les deux intervenants. J'ai bien entendu la thèse qu'on parle de penser que l'Église catholique et les Églises protestantes peuvent se considérer comme une seule Église, même dans une situation d'une communion imparfaite. Et ma question, c'est comment vous pensez qu'on peut arriver à cette étape si l'Église catholique parle toujours des communautés ecclésiales vis-à-vis des Églises protestantes et n'utilise pas l'idée ou le concept d'Église?
Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup pour cette première question. Est-ce qu'il y a une autre question de la part d'un autre membre de la presse? Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole? Vous n'osez pas? Dans ce cas-là, je laisse une réponse. Jean-Michel Bodin, vous avez posé une question? Non? Non, d'accord. Je laisse Joseph et Elisabeth répondre à cette première question. Juste pour que vous soyez au courant, hein, on compte terminer à 11h30, dernier délai. Hein, voilà.
Je peux
Elisabeth,
peut-être dire un mot?
vas-y, Joseph. Ouais.
Bien. Je repartirai, hein, du point de vue catholique, je repartirai du Concile Vatican II. En fait, dans le décret sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio, à propos des églises d'Occident, l'Église catholique parle d'église, si on s'y trouve. Et je me suis toujours demandé, bon, j'ai eu quelques réponses depuis, mais je me suis toujours demandé pourquoi on parlait de communauté ecclésiale. Alors là, vous allez peut-être m'éclairer aussi, mais il semblerait que plusieurs les communautés ecclésiales qu'Église. C'est un élément que j'ai entendu quelquefois, cela. Donc, que certaines, allez, moi je parle tout à fait volontiers, mais que certaines églises préféraient être appelées communautés ecclésiales. C'est en tout cas un argument qui est monté au moment du concile. de cet argument, mais voilà, je l'ai entendu plus d'une fois, donc que des communautés protestantes elles-mêmes ne souhaitaient pas être appelées Église. En tout cas, moi personnellement, dans deux depuis que les évolutions, je crois que nous avons vraiment fait du chemin et qu'il est grand temps que l'on en tire tous les fruits, toutes les conséquences dans l'Église catholique. Et moi, je n'ai aucune difficulté personnellement, mais cela est à voir évidemment dans l'ensemble de l'Église catholique, mais sur la base de tous les progrès, de tous les progrès œcuméniques que nous avons faits, je n'ai pas de difficulté, comme le groupe des Dombes, à vraiment reconnaître que les églises protestantes sont des églises protestantes, sont des églises. Moi, je reconnais l'ecclésialité authentique des églises protestantes. Voilà, même s'il reste certains. Mais donc, voilà, je garde une interrogation. Pourquoi, effectivement, au moment du Concile, a-t-on introduit cette notion de communauté ecclésiale? Il faudrait sans doute faire à nouveau une recherche historique plus précise pour comprendre cela. Mais
Peut-être pas, oui.
c'est clair que du point de vue officiel, disons, de l'Église catholique, c'était sans doute une manière de nuancer la reconnaissance de l'ecclésialité de certaines églises protestantes.
Oui, je peux peut-être qu'on peut dire aussi que on a un certain nombre de fondements qui sont quand même clairement des fondements de catholicité, en particulier notre baptême. C'est aussi ce qu'on souligne dans cette partie, que nous nous fondons sur l'unique baptême, et comme le disent les textes du Nouveau Testament, un seul esprit, un seul baptême, une seule foi. Et je crois que enfin, je pense que je parle pour les membres du groupe qui ont rédigé, au sens où nous avons voulu que ce ne soit pas seulement une prise en compte mécanique de quelque chose d'abstrait, mais que nous voulons aussi qu'il y ait une prise en compte de tout ce que les dialogues œcuméniques ont réalisé. C'est-à-dire que dans la foi que nous partageons, les dialogues œcuméniques ont quand même montré qu'il y a des éléments fondamentaux de la foi. Tous les fondamentaux de la foi sont réunis entre nos églises pour pouvoir dire que nous pouvons nous reconnaître dans la foi chrétienne, dans une catholicité. En particulier la déclaration commune concernant la justification, mais également d'autres domaines. Alors il reste certes la question des ministères. Qui n'est pas, est-ce que c'est une raison d'exclure complètement de l'espérance que nous voulons poser avec cette affirmation, cette réalité que les ministères peuvent aussi évoluer dans leur compréhension les uns des autres et du côté protestant, qui est aussi une réflexion renouvelée sur une manière plus engagée de nous rapprocher. Je précise aussi que, parce que je vois qu'il y a des questions sur les franges que nous pouvons avoir dans nos églises de conservatisme, d'orientation qui sont traditionnalistes ou conservatrices, et qui ne sont pas ouvertes à l'œcuménisme, c'est précisément aussi notre tâche de catholicité interne à nos traditions, d'y travailler précisément, et que le dialogue œcuménique se poursuive aussi à l'intérieur, et cet engagement pour la catholicité. Donc voilà, donc on a voulu à la fois poser déjà les fondements ba du baptême, aussi du fait que nous pouvons quand même célébrer aussi le culte ensemble. Je dis culte au sens général du terme, bien sûr qu'il ne peut pas y avoir d'hospitalité eucharistique, mais nous pouvons quand même, dans la prédication, dans la transmission de la foi, vraiment nous trouver dans une communion déjà réalisée.
Merci beaucoup, Elisabeth et Joseph. Merci aussi pour cette question. Est-ce qu'il y a de la part des journalistes Présent, une autre question ou d'autres questions. Nous avons déjà commencé à répondre à des questions dans le chat aussi, hein. Est-ce que, je suis désolée, je dois regarder toutes les tuiles, comme on dit. Est-ce qu'il y a une autre question? Du coup, je prends une question de quelqu'un d'autre. Je prends bien deux questions de la part d'autres personnes qui sont présente. Nous avons répondu à la question de Monsieur Giustiani concernant la composition du groupe des Dombes, qui est à l'origine un groupe catholique luthéro-réformé plutôt, à l'image de ce que l'œcuménisme était censé être en France à cette époque, à l'époque de sa fondation. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait poser une question. Sinon, j'ai envie, s'il est vraiment avec nous, de passer la parole pour dire bonjour au pasteur Jacques-Noël Pérez, qui normalement se cache derrière une tuile où il n'a pas ouvert sa caméra. Jacques-Noël, est-ce que tu nous entends vraiment et est-ce que tu aurais envie juste de nous saluer? Et nous avons envie de te saluer, de te remercier d'être avec nous aujourd'hui. Ton alter ego, Jean-François Chiron, est en train de donner un cours ce matin à l'Université catholique de Lyon, mais on veut bien aussi te saluer et te donner la parole. Tout simplement pour dire peut-être ton soulagement de voir sortir ce livre, peut-être aussi ta joie. À toi la parole, cher Jacques-Noël.
Merci Jane de me donner la parole. Effectivement, je suis là, j'écoute attentivement tout ce qui t'est dit et je partage pleinement les affirmations, réflexions, remarques d'Elisabeth et Joseph qui ont pris la parole pour commencer. Vraiment, nous avons travaillé tous ensemble. Je veux dire que les coprésidents précédents, donc Jean-François Chiron et moi-même, nous avons été peut-être, nous avons soutenu peut-être le travail des uns et des autres, mais c'était notre rôle, mais nous n'avons pas davantage travaillé, me semble-t-il. Chacun a apporté sa contribution, et c'est ça qui, dans le groupe des Dombes, me semble extrêmement important. Chacun vient avec ce qu'il est, et ce qu'il a, et ce qu'il peut. Et le travail, donc, dure quelquefois plusieurs années, n'est-ce pas, comme pour ce livre-ci, parce précisément que chacun veut apporter sa pierre. Alors, Jane, tu parles de tuiles, moi je parle de pierre, ça nous construisons quelque chose, pas seulement un toit, nous construisons une maison tout entière, la maison de l'Église. Alors voilà, j'ai été personnellement très heureux de voir enfin sortir ce livre. Après, alors nous avons, il faut aussi rappeler qu'il y a eu un confinement pendant les années de gestation du volume. Mais ce qui m'importe davantage, c'est que dans ce volume-là, dans ce livre-là, comme dans les précédents, il y a réellement j'allais dire une entente écuménique. Non, ce n'est pas une entente, c'est une fraternité. Alors je dis aussi sororité, puisqu'il y a des dames hein, dans le groupe des dames. Mais c'est vraiment cela qui m'importe, c'est de voir que nous travaillons réellement main dans la main, et que quand on dit que c'est écrit à 40 mains, c'est vrai. Hein, c'est vrai, chacun y apporte. Selon ses options ou ses spécialisations, ceci ou cela, plus de lignes ou moins de lignes, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a réellement une entente. Alors, alors moi, je suis rentré au groupe des dons, comme vous le savez, en 86, et donc je le quitte maintenant, atteint par la limite d'âge, mais aussi j'ai pu, au long de ces longues années, j'ai pu réellement approfondir ma propre recherche œcuménique. J'ai pu soutenir aussi mon enseignement à l'Institut supérieur d'études œcuméniques par tout ce que je faisais, ce que j'apprenais, ce que je vivais au Dombes. Et je pense que le livre actuel que nous présentons donc maintenant pour chacun d'entre nous est un reflet de ce genre d'expérience. Voilà.
Merci beaucoup, Jacques-Noël, de nous avoir rejoints aujourd'hui, de ce témoignage fort. Aussi, je sais que tu apportes quelque chose d'essentiel à toutes les publications. Tu as vraiment l'œil surtout pour les notes en bas de page et surtout pour les petites coquilles. Mais merci beaucoup pour ton travail et pour le travail de Jean-François pour voilà, voir la sortie de ce livre qui, voilà, qui nous tient à cœur. Merci beaucoup. Je prendrai volontiers alors une dernière question s'il y en a, sinon on ne va pas non plus rester ici en ligne juste pour le plaisir, même si c'est vraiment un plaisir de vous voir, de vous retrouver. Vous avez compris, il y a plusieurs membres du groupe des Dames qui sont présents aussi à ce lancement du livre, à cette conférence de presse. Est-ce qu'il y a une deuxième ou troisième question? Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole? Non? Ah, encore, Monsieur Brown.
Oui,
Alors,
je
je
suis
vous donne
désolée,
la parole.
mais j'aimerais répondre à une question que j'ai mise dans le chat, que dans le texte, c'est souligné qu'on parle de l'Église catholique dans le symbole de Nicée Constantinople et on souligne le rôle du Concile de Nicée. Et j'aimerais savoir si vous, en tant que groupe des dons, pensez utiliser ce texte comme contribution vers l'anniversaire 1700e anniversaire du Concile de Nicée en 2025. C'est juste pour savoir si vous pouvez, il y a des pistes là que vous pouvez apporter à cet anniversaire.
Merci beaucoup pour cette question qui concerne Nicée 2025. Et puis, je donne alors pour une dernière fois la parole à Elisabeth et à Joseph pour répondre, ou à Joseph et à Elisabeth. On va prendre dans cet ordre-là cette fois-ci.
Vous me direz si vous m'entendez, parce que j'ai ouvert ma vidéo. Bien. Donc, ce serait effectivement une question à débattre dans le groupe des dons, hein, de voir ce que l'on peut faire de notre dernier document en lien avec le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Et donc, en tout cas, notre travail sur la catholicité est un travail d'actualisation d'un élément de ce Concile, d'une des notes de l'Église professée, en tout cas par le Concile de Constantinople en 381. Pas encore par celui de Nicée en 325, mais comme on joint les deux conciles, hein, en parlant du symbole de foi de Nicée-Constantinople, donc notre ouvrage pourrait en tout cas être présenté, être une contribution à une réflexion d'actualisation sur la note, la marque de catholicité qui est professée justement à propos de l'Église. Donc c'est surtout un élément très précis de la profession de foi de Nicée-Constantinople, qui peut être mise directement en lien avec notre document. Et bien sûr, la note d'unité aussi, évidemment.
J'avais commencé déjà à répondre. Du point de vue des églises de la Réforme, les confessions de foi ont toujours été très importantes et il est significatif que les églises de la Réforme se soient toujours rattachées au symbole de l'église ancienne. Donc, on les a conservées et je trouve ça particulièrement précieux parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises protestantes ne suivent plus les frontières confessionnelles. Donc, on ne peut plus dire il y a les luthériens, il y a les réformés. Il y a les anglicans, il y a en réalité les méthodistes, il y a en réalité des marbrures et des transversalités, des recompositions ecclésiales particulièrement significatives côté protestant. Beaucoup plus qu'on ne le voit dans l'Église catholique où reste quand même catholique. Donc, on est en proie à ces transversalités. Et d'où notre recherche de fondement de la foi. Et comme beaucoup d'églises n'ont plus gardé les confessions de foi intermédiaires, enfin des autres siècles, on a besoin de recourir, je pense, pour redonner les fondamentaux de notre foi chrétienne à ces confessions de l'Église ancienne. Donc moi, j'attache beaucoup d'importance au travail et à la réflexion sur ces confessions de foi de l'Église ancienne, dans une perspective protestante actuelle où nous avons cette difficulté particulière du symbole, voilà, de ce que représente une identité protestante aujourd'hui.
Merci beaucoup, Elisabeth et Joseph. Et puis finalement, nous avons une dernière question qui est, elle, beaucoup plus pédagogique. Il y a des délégués catholiques et protestants à l'œcuménisme qui sont avec nous à ce lancement. Et pourriez-vous donner des conseils à ceux et celles qui sont sur le terrain pour travailler ensemble en groupe l'ouvrage? Par quel biais faut-il ouvrir le livre? Voilà.
En fait, nos prédécesseurs donnent déjà dans la préface une petite proposition en disant, on peut très bien commencer, si on ne veut pas passer par des parties trop ardues, directement par la partie historique et prendre des périodes historiques et en discuter. Moi, je proposerais comme théologienne pratique, ce que nous avons d'ailleurs fait nous-mêmes dans le groupe des Dombes, c'est déjà de dire quelles sont nos perceptions de l'autre Église, et où nous situons les résistances à vouloir faire Église avec eux, nous, c'est-à-dire où est-ce que leur différence nous dérange. Et ensuite d'essayer de voir est-ce qu'il s'agit de choses secondes ou est-ce qu'il s'agit de choses fondamentales et en quoi pouvons-nous travailler et en quoi les dialogues œcuméniques ont-ils déjà travaillé ces questions. Et après, l'ouvrage, en fait, montre bien dans la table des matières vers quelles ressources on peut se tourner.
Joseph.
Tout à fait d'accord avec Elisabeth. Et tant qu'on en est à faire des propositions, on pourrait aussi commencer par la fin de l'ouvrage, par les conversions. Et à partir de là, faire une remontée généalogique, se demander, mais pourquoi telle et telle conversion concrète sont demandées, et alors nourrir un peu la compréhension de la raison de cette conversion en remontant. Mais c'est pour faire une proposition également. Voilà.
Merci beaucoup, Joseph. Merci à Elisabeth. Merci à vous. Nous avons aussi quelques questions dans le chat auxquelles on n'aura plus le temps vraiment de répondre maintenant. À quand une traduction du credo qui dise « Je crois que l'Église est une sainte catholique » au lieu de dire, au lieu de la traduction actuelle « Je crois en l'Église une ». Je pense que le groupe des Dombes n'est pas forcément le lieu où nous pouvons répondre et changer cette situation. Et puis, sur la question de l'apostolicité dans le symbole de Nicée, Elisabeth est aussi en train de donner une réponse dans le chat. Il y a un document de dialogue luthérien-catholique mondial, l'apostolicité de l'Église, qui montre bien les évolutions sur cette question. Je dirais qu'il n'y a pas seulement ça, mais il y a aussi l'Église vers une vision commune, qui est un document de consensus, voilà, qui est un document qui concerne toutes les Églises membres du Conseil œcuménique des Églises et l'Église catholique, qui a été publié il y a une dizaine d'années et qui travaille aussi cette question de l'apostolicité. Mais nous allons vraiment vous dire merci beaucoup de nous avoir rejoints. Peut-être les membres du groupe des Dombes qui sont sur cet appel et qui ont leur caméra ouverte pourraient aussi lever les mains. Je dis les anciens membres comme les nouveaux membres du groupe des Dombes pour dire merci en particulier à Elisabeth et à Joseph de leur disponibilité aujourd'hui. Et nous vous donnons quelques... Salut à tout le monde. On a de la joie aussi à se retrouver parce qu'on ne se voit pas souvent entre les sessions du mois d'août. Et puis, vous donner quelques dates. D'abord, nous espérons à Paris vous retrouver pour quelque chose, non pas en virtuel, mais dans la vraie vie, le 19 décembre prochain à la rue Madame. à l'église protestante unie de la rue Madame, qui se trouve juste à côté de l'Institut catholique de Paris. On vous donnera quelques éléments de ça. C'est une soirée sans doute publique à 18h30. Et le Centre Sèvres organise le 11 janvier une soirée de lecture du livre avec des premiers retours des personnes de différentes confessions qui ont lu le livre, qui ont reçu le livre ces jours-ci comme nous et qui vont nous donner des éléments. C'est l'Institut supérieur des études œcuméniques et le Centre Sèvres vous invite à cette soirée-là le 11 janvier. Je sais qu'il y a quelque chose qui est organisé. Pierre Latuilière pourrait nous dire un peu plus à Lyon au mois de. Mais il faut que tu ouvres ton micro pour nous le dire, Pierre, qui a organisé quelque chose à Lyon. Et il y a quelque chose à Fribourg aussi, il me semble. Voilà, Pierre.
À Lyon, donc le mercredi 24 janvier à 18h30 à l'église Saint-Bonaventure en plein centre de Lyon, il y aura une présentation du livre du groupe des Dômes. C'est pendant la semaine de prière pour l'unité avec donc Jean-François Chiron et Serge Vautrin, qui aura aussi bien pu en parler et qui est là. Donc voilà, ça sera annoncé assez largement.
Merci beaucoup Pierre et je sais par Claude Ducaros. Claude, tu veux peut-être aussi nous annoncer l'événement c'est à Fribourg hein, ou c'est.
Ah, Elisabeth pourrait le dire aussi, puisque nous serons ensemble au Centre Sainte-Ursule le jeudi 25 janvier pour une conférence sur le livre du groupe des Dombes. Et on se réjouit aussi que cette voix puisse se faire entendre en Suisse romande. N'est-ce pas, Elisabeth?
Et
Merci.
merci beaucoup, Claude. Ça fait plaisir aussi de te voir. Juste pour ajouter que nous espérons aussi avoir un événement, peut-être en français et en anglais, concernant le livre à Genève, éventuellement au centre œcuménique à Genève, à l'invitation du Conseil œcuménique des Églises. Et puis juste pour vous dire qu'il y a déjà des projets de traduction du livre en anglais. Et éventuellement, il y a de l'intérêt pour une traduction allemande. Il me revient de vous dire merci, hein, merci d'avoir été là. Merci à Catherine qui a assuré le lien Zoom, qui a assuré aussi la communication avec les journalistes. Mais surtout, merci à Elisabeth et Joseph de leur présence. Merci aussi à Jacques Noël et à Jean-François Chiron de tout leur travail de mener à bien ce livre. Nous sommes vraiment dans la joie d'avoir vos retours aussi concernant ce livre. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée et merci à chacun et à chacune de votre présence. Merci, au revoir. On va arrêter l'enregistrement et si vous voulez rester, vous pouvez, si vous voulez vous dire bonjour.